Bienvenue sur le podcast de la passerelle. Ici Charlie pour la lecture de Charlie. Toutes les semaines, je prends un livre au hasard, je l'ouvre et hop, c'est la lecture de Charlie. Parce que le hasard n'existe pas et que, comme j'aime lire, comme j'aime raconter des histoires, eh bien j'ai décidé que ma mancie à moi, ce serait pas la lecture. Alors aujourd'hui, le livre sur lequel je suis tombée, c'est La Marquise d'Eau de Heinrich von Kleist. C'est un roman, enfin une nouvelle plus exactement, qui a été publiée en 1808. Je vous fais rapidement un petit résumé, histoire que vous sachiez un petit peu de quoi ça parle. Ça parle en fait de la marquise d'Eau, et en fait c'est la guerre, elle vit l'enfer de la guerre, et lors de la mise à sac de sa ville, il y a un officier russe, le comte F, qui la sauve d'un groupe de soldats avant de la violer et de la mettre enceinte. Une fois sa grossesse révélée, sa famille la chasse. Sa famille, il y a le Herr Lorenzo von G qui est colonel et sa femme, Frau von G, qui est colonel. Et du coup, sa famille la répudie en lui disant « Sale petite traînée, t'as fait un gamin alors que, tu comprends, normalement t'étais veuve et t'avais pas le droit. » Très sympa comme ambiance, n'est-ce pas? Alors, je vous lis sans plus attendre le passage sur lequel je suis tombée et nous verrons après de quoi nous parle ce petit extrait. Voici donc un extrait de La Marquise d'Eau de Heinrich von Kleist. Ah oui, petit détail que j'oubliais, c'est que du moment où elle se fait chasser, la Marquise d'Eau décide que pour arriver à s'en sortir, elle s'est fait dégager de sa famille, eh bien elle allait assumer totalement et elle allait publier une lettre dans un journal en disant « Si mon violeur se manifeste, j'épouserai mon violeur puisque c'est le père de mon enfant et je ne peux pas vivre dans le déshonneur. » Voilà, ce petit détail manquait pour comprendre un petit peu le passage que je vais vous lire. Donc, cette fois-ci, c'est la bonne. Voici donc, sans plus attendre, un extrait de La Marquise d'Eau de Heinrich von Kleist. Il était déjà parvenu à mi-hauteur, décidé à se faire entendre d'elle à tout prix, quand la porte se ferma brutalement devant lui, et le bruit d'un verrou repoussé avec force dans une hâte éperdue interrompit sa course. Il demeura un moment incertain quant au parti à prendre dans une telle situation, et il se demanda s'il n'allait pas entrer dans la maison par une fenêtre restée ouverte sur le côté et poursuivre son but jusqu'à ce qu'il l'eût atteint. Mais, si pénible qu'il lui fût à tous égards de faire demi-tour, il lui sembla cette fois que la nécessité l'exigeait, et profondément irrité d'avoir laissé la marquise s'échapper de ses bras, il redescendit furtivement le perron et quitta le jardin pour aller retrouver ses chevaux. Il sentait que la tentative de lui parler à cœur ouvert avait échoué à jamais, et c'est au pas que, réfléchissant à la lettre qu'il était dès lors condamné à lui écrire, il revint à M. De l'humeur la plus exécrable qui fût, il dînait le soir dans la salle commune d'une auberge, quand il rencontra le garde général qui lui demanda d'emblée si sa démarche à V avait été couronnée de succès. Le comte répondit sèchement « Non !» fort tenté de l'éconduire par une remarque acerbe. Cependant, pour satisfaire aux règles de la politesse, il ajouta au bout d'un moment qu'il était décidé à s'adresser à elle par écrit et qu'ainsi il serait fixé sous peu. Le garde général dit qu'il était navré de voir que sa passion pour la marquise le privait de tout son bon sens. Il devait toutefois lui affirmer qu'elle s'apprêtait à faire un autre choix. Sonnant pour avoir les journaux, il lui tendit la feuille où se trouvait insérée l'invitation lancée au père de son enfant. Le comte parcourut l'annonce, tandis que le sang lui montait au visage et se trouva ballotté entre des sentiments fort divers. Le garde général lui demanda s'il ne croyait pas que l'on découvrirait la personne recherchée par la marquise. « Sans aucun doute, » répliqua le comte, penché de toute son âme sur ce papier dont il absorbait avidement la signification. Là-dessus, s'étant approché de la fenêtre un instant tout en repliant le journal, il dit « Très bien, maintenant, je sais ce que j'ai à faire. » Puis il se retourna, et demandant fort courtoisement à l'officier s'il le reverrait bientôt, il prit congé de lui et s'en alla, pleinement réconcilié avec son destin. Pendant ce temps, les scènes les plus vives s'étaient déroulées dans la maison du commandant. La colonelle était ulcérée au plus haut point par la funeste brutalité de son époux et par la faiblesse dont elle avait fait preuve lorsqu'il avait répudié la marquise en se soumettant à sa tyrannie. Lorsque le coup de pistolet était parti et que sa fille était sortie précipitamment de la chambre du commandant, elle avait été victime d'un évanouissement. Elle n'avait certes pas tardé à revenir à elle, mais à son réveil, le commandant s'était borné à lui dire qu'il regrettait qu'elle se fût effrayée pour rien et il avait jeté le pistolet déchargé sur une table. Plus tard, quand il avait été question de réclamer les enfants, elle s'était timidement risquée à dire qu'on n'en avait pas le droit. D'une voix pathétique et affaiblie, du fait de son malaise, elle avait demandé qu'on évitât dans la maison toute scène de violence. Mais le commandant, écumant de rage, n'avait fait que se tourner vers le garde général pour lui dire « Va me les chercher !» Quand la seconde lettre du comte était arrivée, le commandant avait donné l'ordre d'aller à V la porter à la marquise qui, comme on l'apprit ensuite par le messager, l'avait mise de côté en disant que c'était bien. La colonelle, trouvant qu'il y avait beaucoup de choses obscures dans toute cette affaire, notamment la totale indifférence avec laquelle la marquise se montrait disposée à contracter un nouveau mariage, essaya vainement d'amener la conversation sur ce sujet. À chaque fois, le commandant la priait de se taire, et ce sur un ton qui avait tout d'un ordre. Un jour, entre autres, alors qu'il décrochait un portrait d'elle resté au mur, il assura qu'il voulait l'effacer de sa mémoire et déclara qu'il n'avait plus de fille. Là-dessus, parut dans les journaux l'étrange appel de la marquise. La colonelle, bouleversée au plus haut point, se rendit avec la gazette que le commandant lui avait envoyée dans son cabinet de travail, où il était occupé à son bureau, et elle lui demanda de lui dire, pour l'amour du ciel, ce qu'il en pensait. Le commandant dit en continuant d'écrire « Oh, elle est innocente !»« Comment ?» s'écria Madame de G. au comble de l'étonnement. « Innocente ?»« Oui, elle l'a fait en dormant !» dit le commandant sans lever les yeux. « En dormant ?» répliqua Madame de G. « Et une chose aussi ahurissante serait la folle !» lança le commandant en empilant ses papiers. Et il sortit. Le jour où parut le numéro suivant, alors qu'ils prenaient tous deux leur petit déjeuner, la colonelle lut la réponse suivante dans une feuille d'annonce qui sortait encore toute humide de la presse. « Si Madame la marquise d'O veut bien se trouver le 3 à 11h du matin dans la maison de son père, Monsieur de G, celui qu'elle cherche sera là pour se jeter à ses pieds. » Avant même d'avoir lu la moitié de ce texte inouï, la colonelle resta sans voix. Elle parcourut la fin du regard et tendit le journal au commandant. Celui-ci le lut à 3 reprises, comme s'il n'en croyait pas ses yeux. « Eh bien, Lorenzo !» s'écria la colonelle. « Dis-moi, pour l'amour du ciel, qu'en penses-tu ? » « Oh, la misérable !» lança le commandant en se levant. « La fieffée hypocrite !» 10 fois l'impudence d'une chienne, ajoutée à 10 fois la ruse du renard, ne sont rien à côté de ce qu'elle est. Avoir pareil minois, avoir ces yeux-là, un chérubin n'en a pas de plus candide. » Et il se lamentait sans pouvoir se calmer. « Mais enfin, grand Dieu !» demanda la colonelle. « Si c'est une ruse, quel peut en être le but ?»« Le but ! Son infâme supercherie. Elle veut nous l'imposer de force !» répliqua le colonel. Ils l'ont déjà apprise par cœur, la fable que tous deux, elle et lui, veulent nous faire avaler le 3 à 11h du matin. Ma chère petite fille, devrais-je dire, je ne savais rien de tout cela, qu'aurais pu imaginer, pardonne-moi, accepte ma bénédiction et ne me garde pas rancune. Mais c'est plutôt une balle que va recevoir celui qui, le 3 au matin, franchira le seuil de ma maison. À moins qu'il ne soit préférable que je le fasse jeter dehors par les domestiques. » Madame de G lut l'article une nouvelle fois et dit que s'il fallait choisir entre 2 choses inconcevables, elle préférait croire à un caprice inouï du destin plutôt qu'à une telle bassesse de la part de sa fille, jusque-là si irréprochable. Mais avant même qu'elle eût achevé, le commandant s'écria en quittant la pièce. « Fais-moi le plaisir de te taire ! Cela m'horripile rien que d'en entendre parler !» Quelques jours plus tard, le colonel reçut une lettre de la marquise concernant l'annonce du journal. D'une manière fort respectueuse et très touchante, elle lui demandait, puisqu'il lui refusait la grâce de paraître dans sa maison, de bien vouloir lui envoyer à V, l'homme qui se présenterait chez lui dans la matinée du 3. La colonelle était là quand le commandant reçut cette lettre. Et comme elle lut clairement sur son visage qu'il avait été troublé dans son jugement, car s'il s'agissait d'une supercherie, quelle intention pouvait-il prêter à sa fille maintenant qu'elle ne semblait montrer aucune prétention à se faire pardonner ? Elle trouva le courage de proposer un plan qu'elle méditait depuis longtemps dans son cœur tiraillé par le doute. Tandis que le colonel fixait encore sur le papier un regard dénué d'expression, elle lui dit qu'elle avait une idée. Voudrait-il lui permettre de se rendre à V pour un ou deux jours ? Si la marquise connaissait vraiment celui qui lui avait répondu par la voix des journaux en se faisant passer pour un inconnu, elle saurait s'y prendre pour l'amener à se trahir, fût-elle la traîtresse la plus invétérée. Déchirant la lettre d'un geste brusque, le commandant rétorqua qu'elle savait bien qu'il ne voulait plus avoir affaire à sa fille et qu'il lui interdisait toute espèce de relation avec elle. Il mit les morceaux déchirés dans un pli qu'il cacheta, y écrivit l'adresse de la marquise et le remit au messager en guise de réponse. Secrètement irrité par un entêtement aussi tenace qui anéantissait toute possibilité d'éclaircissement, la colonelle décida d'exécuter son plan contre la volonté du commandant. Elle prit avec elle l'un des chasseurs de son mari et dès le lendemain matin, alors qu'il était encore au lit, elle partit pour V. Quand elle arriva devant l'entrée du domaine, le portier lui dit que personne n'était admis auprès de madame la marquise. Madame de G répondit qu'elle était au courant de cette consigne, mais elle le pria néanmoins d'aller annoncer la colonelle de G. L'autre répartit alors que c'était peine perdue, madame la marquise ne recevant personne au monde. Madame de G rétorqua qu'elle serait reçue, elle, parce qu'elle était sa mère, et qu'elle le priait de ne pas tarder davantage à remplir son office. Mais à peine le portier était-il entré dans la maison pour risquer une tentative qu'il jugeait vaine, que l'on vit la marquise en sortir, courir jusqu'au portail et tomber à genoux devant la voiture de la colonelle. Aidée de son chasseur, madame de G en descendit et, non sans quelque émotion, releva sa fille. La marquise, dominée par ses sentiments, s'inclina bien bas pour lui prendre la main et, pleurant à chaudes larmes, elle la conduisit au salon en lui prodiguant les marques du plus profond respect. « Ma mère chérie !» s'écria-t-elle, après l'avoir fait asseoir sur le divan tandis qu'elle-même restait debout devant elle et s'essuyait les yeux. « Quel heureux hasard me vaut le bonheur sans prix de vous voir ici !» Madame de G, saisissant affectueusement la main de sa fille, répondit qu'elle voulait seulement lui dire qu'elle venait pour lui demander pardon de la dureté avec laquelle elle avait été chassée de la maison paternelle. « Pardon ?» l'interrompit la marquise en cherchant à lui baiser les mains. Mais évitant ce geste, la colonelle poursuivit. « Non seulement l'apparition dans les derniers journaux de la réponse à l'annonce que tu sais nous a donnée à moi, aussi bien qu'à ton père, la conviction de ton innocence, mais... je dois t'annoncer qu'à notre grand étonnement, nous avons eu la joie de le voir se présenter hier en personne à la maison. « Qui donc c'est ?» demanda la marquise en s'asseyant à côté de sa mère. « Qui donc s'est présenté en personne ?» Et tous les traits de son visage étaient tendus par l'impatience. « Lui, répondit madame de G, l'auteur de la réponse, celui-là même à qui s'adressait ton appel. « Eh bien, qui est-ce ? » demanda la marquise, toute haletante, et elle répéta « Qui est-ce ? » « C'est ce que je voudrais te laisser deviner, » répliqua madame de G. « Figure-toi qu'hier, alors que nous prenions le thé et étions justement en train de lire cette étonnante gazette, quelqu'un de notre proche entourage fait irruption dans la pièce avec des gestes de désespoir et se jette aux pieds de ton père, puis aussitôt après aux miens. Ne sachant que penser, nous l'invitons à s'expliquer. Il nous dit alors que sa conscience ne lui laisse aucun repos, que c'est lui le misérable qui a abusé de madame la marquise, qu'il n'ignore pas, bien sûr, la façon dont on juge son crime, et que, si son acte mérite vengeance, il vient pour s'y offrir lui-même. « Mais qui est-ce? Qui est-ce donc ?» insista la marquise. « Comme je te l'ai dit, reprit madame de G, c'est quelqu'un de jeune, bien élevé d'ailleurs, que nous n'aurions jamais cru capable d'une telle infamie. Mais ne t'effraie pas, ma fille, d'apprendre qu'il est de basse condition et dépourvu de tout ce qu'on serait en droit d'exiger d'un homme appelé dans d'autres circonstances à devenir ton époux. « Peu importe, ma mère chérie, dit la marquise, il ne peut être tout à fait indigne, puisqu'il s'est jeté d'abord à vos pieds, plutôt qu'aux miens. Mais qui est-ce? Qui est-ce? Dites-moi donc de qui il s'agit. » « Eh bien, répondit sa mère, c'est Leopardo, le chasseur que ton père a fait récemment venir du Tyrol et que, comme tu as pu le voir, j'ai amené avec moi pour te le présenter comme fiancé. « Leopardo, le chasseur ? » s'écria la marquise en mettant la main sur son front dans un geste de désespoir. « Pourquoi t'effrayer ? » demanda la colonelle. « As-tu des raisons d'en douter ? » ?»« Mais où ? Quand ? Comment ? » fit la marquise complètement déroutée. « Cela, répondit sa mère, il ne veut le confier qu'à toi seul. Il prétend que la pudeur et l'amour l'empêchent de s'en expliquer à nul autre que toi. Mais si tu veux, nous pouvons ouvrir l'antichambre où, le cœur battant, il attend de connaître le dénouement de tout cela. Et tu pourras voir, une fois que je me serai retirée, si tu peux lui arracher son secret.
« Dieu, mon père !» s'écria la marquise. Je m'étais assoupie une fois dans la canicule de la mi-journée, et quand je me suis réveillée, je l'ai vue s'éloigner de mon divan. Et elle couvrit de ses petites mains son visage empourpré de honte. À ces mots, sa mère tomba à genoux devant elle.
« Oh, ma fille, mon exquise enfant !» s'écria-t-elle en l'étreignant. « Et moi, quel indigne je suis !» ajouta-t-elle en cachant sa tête dans ses genoux. « Mais qu'avez-vous, ma mère ?» s'enquit la marquise stupéfaite. « Sache, ô toi qui es plus pure que les anges, que rien de ce que je t'ai dit n'est vrai, que mon âme dépravée ne pouvait croire à une innocence aussi rayonnante que la tienne, et qu'il m'a fallu d'abord user de cet artifice honteux pour m'en convaincre. « Ma mère chérie !» s'écria la marquise qui, bouleversée de joie, se pencha vers elle pour la relever. Madame de G protesta. « Non, je resterai à tes pieds tant que tu ne m'auras pas dit. Toi, si magnifique, si au-dessus des choses terrestres, si tu peux me pardonner la bassesse de ma conduite. « Moi, vous pardonnez, ma mère ? » s'écria la marquise. « Levez-vous, je vous en conjure. Tu entends ? » insista madame de G. « Je veux savoir si tu peux m'aimer encore et me respecter aussi sincèrement que jadis. « Ma mère adorée ! » s'écria la marquise en s'agenouillant à son tour devant elle. « Respect et amour n'ont jamais déserté mon cœur. » Qui pouvait, dans des circonstances aussi inouïes, m'accorder sa confiance? Comme je suis heureuse de vous voir convaincue que je suis irréprochable. Eh bien, répliqua madame de G en se relevant avec l'aide de sa fille, je vais désormais te traiter comme une reine, mon enfant chéri. Tu feras tes couches chez moi, et si les circonstances voulaient que ce fût d'un jeune prince que j'attendisse la naissance, je ne saurais t'entourer de plus de tendresse et de dignité. Tous les jours de ma vie, je les passerai désormais à tes côtés. Je braverai le monde entier et ne veux avoir d'autre honneur que ta honte, pourvu que tu me pardonnes et oublies la dureté avec laquelle je t'ai repoussée. »
La marquise s'efforça de la réconforter en lui faisant mille caresses et promesses. Mais le soir vint et minuit sonna sans qu'elle y fût parvenue. Voilà, c'était donc l'extrait sur lequel je suis tombée, un extrait de « La marquise d'eau » de Heinrich von Kleist. Alors, je ne sais pas ce que ça vous raconte à vous, ce passage-là,
Mais moi, ça m'a vraiment parlé de le rapport qu'on a à papa et maman. Le fait qu'on veuille être aimé à tout prix de papa et maman. Sauf que papa et maman, à un moment donné, c'est aussi des êtres cuirassés et à un moment donné, leur cuirasse fait qu'ils ne peuvent pas nous voir comme l'être pur qu'on voudrait qu'ils voient qu'on est. En fait, ils vont forcément, à un moment donné, nous juger. Et c'est normal, tout comme nous, à un moment donné, on a jugé nos parents. Sauf que, on est un petit peu couillon quand même, en tout cas, moi ça me parle, je suis un petit peu couillonne, c'est que, à 30, 35, 40 ans, tu t'efforces encore de correspondre aux critères qui vont satisfaire tes parents afin de te sentir aimé d'eux. Mais rassurons-nous, on va les décevoir, tout comme nos parents vont nous décevoir, nous, enfants, nous allons décevoir nos parents. Alors, arrêtons d'avoir peur d'être impurs à leurs yeux, d'être souillés, d'être une catin ou une traînée ou un vicieux, un sadique, etc. En plus, là, il est question de sexualité, de rapport sexuel. C'est de toute manière, on va devenir adulte, donc on va quitter le giron maternel et paternel, mais surtout maternel, et on va, à un moment donné, ne plus être leur petit bébé. Ça parle de l'innocence perdue et on aimerait être vu en permanence avec les yeux de l'amour de nos parents qui nous regardent comme la dernière merveille du monde. Mais comme on grandit, forcément, pour eux, on devient le symbole de l'innocence perdue. On est avili par la vie, par le fait même d'être vivant. C'est une drôle de manière de voir, mais c'est une manière de voir qui est commune à tout le monde, je crois. Alors peut-être qu'il est temps, en fait, de se donner cet amour inconditionnel à nous-mêmes. Et ça tombe bien, on est pile poil dans la lignée de la nouvelle lune en balance de 2019 que je vous invite à aller écouter et lire sur notre site. Pour la suite de ma réflexion sur cet extrait de Heinrich von Kleist, pour lire et écouter la nouvelle lune, l'analyse de la nouvelle lune en Vierge qui aura lieu là le 28 septembre, eh bien, ou qui a lieu, ou qui a eu lieu, en fait, je ne sais pas quand vous écoutez ce podcast, mais allez lire, c'est pas en Vierge, c'est en Balance, allez lire l'analyse de la nouvelle lune en Balance, vous allez voir, on est pile là-dessus. Pour tout ça, une seule adresse, notre site, projet-lapasserelle.com. Et n'oubliez pas, nous avons également un podcast musical, La Passerelle Musicale. Et si vous voulez écouter des histoires un petit peu plus olé olé, je vous donne le nom de mon podcast de lectures érotiques. Ça s'appelle Les Lectures Érotiques de Charlie. Eh bien, ce podcast touche à sa fin. Alors prenez soin de vous et à très vite sur notre site. Ciao, ciao, ciao. Retrouvez-nous sur projet-lapasserelle.com, le collectif qui propose sa vision chamanique du monde.